Le journal est présenté par Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour. La reconstruction passe par les urnes en Irak. Le pays en ruine après sa douloureuse victoire sur Daesh élit aujourd'hui son nouveau parlement, 329 députés qui devront ensuite nommer un premier ministre. Les enjeux sont colossaux pour définir un nouvel équilibre politique et confessionnel dans ce pays qui n'a connu que la guerre ces 13 dernières années. Un scrutin sous très haute sécurité. Aussi, le groupe État islamique affirme avoir des agents dormants prêts à frapper les bureaux de vote. Un reportage à Bagdad des envoyés spéciaux de RFI Richard Rifono et Sami Boukhelifa.
Les forces d'intervention spéciales prennent position dans le centre-ville de Bagdad. Des barrières, des barbelés bloquent désormais les principaux carrefours. La mission du capitaine Mostafa Kadam, déjouer une éventuelle attaque terroriste.
Vous savez, nous, les forces de sécurité, nous avons libéré notre pays. Nous avons chassé Daesh de notre territoire, mais il y a toujours des menaces. Alors encore une fois, nous sommes présents pour protéger notre patrie. C'est notre devoir de militaire.
Loin des grands boulevards et de l'important dispositif sécuritaire, le souk historique de Bagdad, lieu de rendez-vous des intellectuels, des poètes et des musiciens. L'atmosphère est détendue. Pour Ali Salah, un jeune avocat, le groupe État islamique, c'est de l'histoire ancienne.
L'époque de la terreur est révolue. L'Irak va de l'avant. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Mourir? On est déjà mort plusieurs fois. Maintenant, il faut espérer un meilleur avenir pour notre pays. On verra.
L'ambiance festive éclipse la menace terroriste et pourtant, le risque d'attentat est bien réel. Usés par 15 années de chaos, les Irakiens le répètent désormais sans cesse, ces élections législatives sont un nouveau départ.
Sami Boukhelifa et Richard Rifono de Radio France Internationale à Bagdad pour France Culture. Le chef de la diplomatie iranienne prend son bâton de pèlerin. Il va tenter de sauver l'accord nucléaire déchiré cette semaine par Donald Trump. Javad Zarif se rend à Pékin aujourd'hui et à Moscou. Ensuite, il sera mardi à Bruxelles avec les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Lui a interdiction de quitter son pays, la Malaisie. L'ancien premier ministre battu cette semaine, Najib Razak, voulait partir en Indonésie avec sa femme officiellement pour faire une pause, mais une foule en colère l'en a empêché à l'aéroport. Des rumeurs indiquaient que le couple voulait fuir définitivement par peur de la justice malaisienne qui enquête sur des milliards de dollars détournés d'un fonds d'État. En Irlande, l'heure du choix se rapproche. Dans deux semaines, le 25 mai, se tiendra ce référendum qui pourrait lever l'interdiction constitutionnelle de l'avortement. L'IVG est passible de 14 ans de prison en Irlande et n'est autorisé depuis 2013 qu'en cas de risque mortel pour la mère. Aujourd'hui, les anti-avortements tiennent à Dublin leur dernier rassemblement national dans cette campagne, suivi pour nous par Julien Lagache.
Les partisans du non au référendum sur la libéralisation de l'avortement ont mis l'accent sur les chiffres dans cette campagne. Leurs affiches citent le Royaume-Uni où, d'après eux, une grossesse sur 5 serait stoppée et où un diagnostic de trisomie pour le fœtus conduirait à une IVG dans 90% des cas. Une sélection inadmissible pour les pro-vie qui appellent dans l'un de leurs slogans à rejoindre la rébellion. Une rébellion contre la dynamique libérale diffusée selon eux par les médias traditionnels et le monde politique devenu récemment plus favorable à l'avortement. De leur côté, les pro-choix crient à l'hypocrisie d'une IVG interdite en Irlande, alors que chaque année, 3000 Irlandaises vont avorter à l'étranger sans pouvoir bénéficier de soins ou de suivi à leur retour. Des arguments relayés par des vidéos témoignages diffusés par les deux camps et qui se répondent sur les réseaux sociaux, où le débat tourne parfois aux accusations mutuelles. Une campagne bien moins consensuelle donc que celle du référendum sur le mariage homosexuel, voté à 62% en 2015, et même si dans les sondages, le camp du oui est en tête, son avance s'est rétrécie ces dernières semaines et les 18% d'indécis laissent planer l'incertitude. Parmi les pro-choix, beaucoup estiment que l'issue pourrait être très serrée, mais certains craignent même un effet Brexit avec un retournement de situation dans les urnes.
Il avait fait plus de 11 000 morts entre 2013 et 2016. Le virus Ebola est de retour en Afrique de l'Ouest. L'OMS reconnaît qu'elle se prépare au pire des scénarios. Elle confirmait hier 32 cas en République démocratique du Congo et déjà 18 décès qui sont causés par la souche Ebola Zaïre, la plus violente et meurtrière du virus. En France, alors que la grève à la SNCF repart ce soir pour deux nouvelles journées, la compagnie met en application l'une de ses promesses pour faciliter la tâche des usagers. Elle s'est engagée à publier sur son site la liste des trains qui circulent plus longtemps à l'avance pour les jours de grève, et ce jusqu'à la fin du mois. On s'attend à des perturbations maximum pour la journée de lundi, jour où les syndicats lancent leur consultation de tout le personnel pour ou contre la réforme. réforme ferroviaire, lundi, dont l'intersyndicale appelle également à faire une journée sans cheminots. Changer de monnaie pour changer de façon de consommer. Paris se dote aujourd'hui d'une monnaie locale. Elle est baptisée la pêche et elle aura cours pour le moment chez une quinzaine de commerçants de l'Est parisien. La capitale rejoint donc le mouvement initié autour de Montreuil pour favoriser les achats dans des boutiques engagées dans des démarches locales et vertueuses. Plus d'explications avec Naïla de Rouanet.
Ne vous trompez pas, ce ne sont pas des billets de Monopoly, mais des pêches. Des coupures de 1, 5, 20 ou encore 50 pêches de couleur vert-gris débarquent dans certains magasins de Paris. Sarah Tartarin est coprésidente de l'association Une Monnaie pour Paris qui lance le projet. Il y avait des avantages à reprendre cette monnaie locale déjà existante.
Soit on faisait une nouvelle monnaie qui n'avait rien à voir avec la pêche et deux monnaies qui ne pouvaient pas communiquer ensemble, ou alors étendre la monnaie qui existe et continuer de la faire circuler ailleurs. D'autant plus qu'il y a pas mal de coupons aujourd'hui qui sont imprimés mais qui ne sont pas en circulation.
À Montreuil, là où est née la monnaie en 2014, on apporte quelques nuances. La librairie La Folie d'Encre utilise cette monnaie et selon Cyril Colette, libraire, seulement 1 à 2% de la clientèle paye avec des pêches.
Pour l'instant, je vois beaucoup des utilisateurs de pêche comme des militants. On n'est pas encore sorti du cercle des militants ou des personnes déjà conscientisées à ce genre de circuit. On n'est pas sur le grand public Montreuil.
Et puis les commerçants ne peuvent pas tout le temps acheter avec des pêches auprès de leurs fournisseurs. C'est le cas de la coopérative Les Nouveaux Robinson. Mais Rémi Lafitteau, adjoint à la direction, reste confiant pour l'avenir.
Peut-être qu'il y aura plus de fournisseurs. Peut-être qu'on pourra faire plus d'échanges, mais aujourd'hui la pêche est surtout faite pour favoriser un échange local. C'est des choses, il va falloir du temps pour que tout ça rentre dans les mœurs.
En France, 80 monnaies locales existent déjà et une centaine d'autres sont en création.
Un mode météo enfin avec une carte de France coupée en deux, pluie à l'ouest et soleil à l'est et une ligne qui va se déplacer dans la journée pour englober la région parisienne, le massif central et l'Occitanie. Les températures, elles restent comprises cet après-midi entre 12 degrés à Brest et Bordeaux et 20 degrés autour de la Méditerranée.